Dans la nuit de l'hiver galope un grand homme blanc. Galope.
Adieu l'hiver.
Adieu, à présent, à jamais, pour toujours.
C'est vraiment le plus merdeux des adieux.
Adieu l'hiver, une émission spéciale Equinox en deux parties. Une dernière dose de givre hivernal, un petit glaçon dans le dos avant le passage au zénith et la douceur printanière.
雪が降る心の中を夜更けに白い涙。
Adieu l'hiver.
Number two.
Tombe la neige. Direction les Alpes de Haute-Provence pour une balade en raquette sur les traces des animaux et des histoires qu'elles nous racontent. Temps gris, ciel bas, neige croûteuse. On suit Jean-Claude Surian, notre accompagnateur en montagne.
あなたが来るはずはない。雪が何かかま
し。Nous sommes sur la communauté de communes de Sisteron et plus exactement dans la vallée du Vinçon. Alors, c'est un petit torrent de montagne qui fait une trentaine de kilomètres de long, qui part sa source dans le massif des Monges à 2000 et quelques mètres d'altitude et qui va rejoindre la Durance entre Volonne et Sisteron. C'est un secteur où je balade beaucoup en été et en hiver. Par son cadre, tout en étant à proximité de Sisteron, on est très rapidement dans un cadre très sauvage, isolé, avec de belles espèces animales qui sont réimplantées depuis quelques années. Voilà. Donc après, on va découvrir ça au fil de notre balade. Donc on va aller au petit village de Saint-Symphorien, qui est à 2 km de la voiture où nous sommes, là, sur le pont de la Reine Jeanne. Petit pont du 12e ou 13e siècle. Ce que j'aime bien avant de parler des traces d'animaux, c'est de montrer un peu aux origines. Et les origines, c'était, on va dire, chez nous, les chasseurs-cueilleurs. Les néolithiques, paléolithiques, il y a donc entre 6 et 7 000 ans. Donc les traces, en fait, nous on parle de traces d'animaux, on est là, on vient. Mais à l'origine, les traces d'animaux, c'était les premières écritures pour les peuples de cette époque. Donc c'était leur écriture, c'était leur survie, savoir analyser les traces, parce que leur survie en hiver surtout, c'était savoir suivre les traces pour pouvoir les chasser, et c'était aussi des traces humaines, c'est-à-dire il était des traces, des empreintes ou des traces de vie, que sont les feux, les petits logements, enfin les abris. C'est une neige qui a pris l'eau et qui s'est regelée par des températures de la nuit là. Donc on a une croûte. Il craque sous nos raquettes. Là, il y a eu une grosse chute de neige récemment, assez rapide, avec 50-60 cm d'un coup. Donc les animaux, pour eux, c'est vraiment un gros handicap. Ils sont bloqués, ils n'arrivent plus. Donc ils vont se mettre dans les forêts, au pied des sapins, au pied des arbres, où il y a un peu moins de neige. Et ils vont essayer, dans un premier temps, de bouger le moins possible et attendre que la neige se tasse, comme elle est aujourd'hui. Donc ça veut dire, des fois, ça peut durer des jours où ils vont ne presque plus manger, attendre, bouger le moins possible pour dépenser énergie, garder leur énergie pour la survie. Donc on va aller autour d'un village parce que les animaux, dans les temps difficiles, aiment bien se rapprocher des maisons parce qu'ils trouvent des abris. Des abris, maintenant, malheureusement, il n'y a plus de nourriture pour eux parce que ce sont des villages abandonnés. Mais à une certaine époque, ils trouvaient aussi des nourritures. Donc on va se rapprocher du village de Saint-Symphorien. Village abandonné depuis entre les deux guerres, on va dire. Le dernier habitant est parti en 1950. Mais c'est un village où il y a eu jusqu'à 120-130 personnes. Les traces empreintes, puis il y a les laissés des animaux, c'est-à-dire les crottes, les laissés, donc ça c'est très important comme indicatif. Donc là on a un tout petit laissé là. Donc sur ce type de crotte, c'est difficile déjà à définir, mais bon, là on est sur un petit carnivore, ça doit être une, je ne pourrais pas encore définir sûrement, parce que je vois aucune trace de pas à côté, une belette ou hermine, enfin plutôt une belette ici dans nos bois, des martres, il peut y en avoir aussi, mais enfin là je pense que c'est une belette qui nous laisse. Donc tous ces animaux, ils ont des parcours, des territoires, et ils nous laissent sur leur parcours, dans leur zone, des petites traces de passage pour bien limiter leur territoire et indiquer à leurs collègues ou autres animaux qui sont dans le secteur. Voilà une première trace. C'est une trace de renard. Donc on voit bien ces quatre pelotes, les deux, trois griffes qui sortent devant. Quand vous suivez une trace de renard, il a une particularité, c'est qu'il a un alignement. Il a un alignement des quatre pattes, c'est-à-dire elles sont sur la même trajectoire, il n'y a pas de décalage latéral. Donc quand vous suivez une trace de renard, ou si vous la voyez sur plusieurs mètres, vous verrez de suite si c'est un chien, un renard ou un autre animal. Bon alors, en général quand on trouve une trace de renard, très souvent, notre ami le renard, il est en chasse, donc on trouve souvent le lièvre qui n'est pas loin. Donc là on a trace de lièvre devant nous, là, qui a traversé là. Avec ces deux impacts à l'avant et deux traces derrière, ça fait une sorte de triangle. Là, donc les deux grosses pattes de devant laissent les pattes arrière, excusez-moi, viennent laisser deux grosses empreintes sur le devant. Et derrière, on voit deux petites traces qui forment une sorte de triangle. Et là, ce sont les pattes avant qui viennent se poser derrière. Donc là, déjà, quand tu vois l'impact des pattes avant, tu sais la direction qu'il prend. Hein.
Mais alors, ce qui est fou, c'est que les autres traces qu'on voit, elles sont quand même à 1 mètre et demi, à 2 mètres.
Ouais. Là, y a facilement...
Ils sautent tout ça.
Donc, ils sautent 4-5 mètres s'il faut. Pas de problème. Mais une chasse peut durer des jours avec un renard et un lièvre. Donc souvent, le renard, il va attraper le lièvre, souvent au gîte. Donc là, on se dirige vers une combe où il y a une vieille ferme qui est en état, qui a été entretenue. Et dans cette combe, il y a un quartier, on appelle ça des quartiers chauds. Et il y a des zones à l'adrée, plein sud, avec des roches, des pentes un peu raides, donc qui se dégagent vite de la neige. Donc là, c'est une zone où en général, il y a Il y a beaucoup de mouflons, de chamois. On va voir s'ils sont là aujourd'hui. Donc là, on trouve une zone qui a été, une zone de neige qui a été soulevée, dégagée, labourée, on va dire, par un sanglier. Je vois qu'une trace qui arrive sur le lieu, donc un solitaire. Il est venu là, il a soulevé la neige au pied des chênes, des petits chênes. Non, il y a déjà moins de neige. Donc il a gratté, il a soulevé la neige et il a dû manger les glands là, qu'il trouvait en surface. Donc le sanglier, lui, il est omnivore. Hein. Il va manger tout ce qu'il trouve. Si par malheur, s'il y a un mulot, une musaraigne qui traîne sous la neige, il peut très bien la manger au passage. Ça ne lui pose pas un problème. Donc là, je pense que c'était plutôt les glands parce qu'il n'a pas creusé avec le groin. Là. Il est resté en surface du sol. Donc c'est des grands chantiers, ça c'est très classique. Oh là là, là il laboure le sol, hein. Il soulève des pierres énormes. Regardez ça là autour du tronc, hein. C'est impressionnant, hein, le travail des sangliers. Là on est dans une chênaie, un début de chênaie, puis il y a surtout du pin. Donc. Mais on va trouver des chênaies un peu plus loin. Donc, ils se nourrissent exclusivement de chênes, de champignons. Quand il en trouve dans le sol, s'il trouve une truffe aussi, il va le manger, pas de problème. Hein. Des zones ici truffières, hein. Mais pas, ouais. Pas de problème.
Peut-être qu'on pourrait chercher des truffes nous aussi.
Je me retrouve à quatre pattes, les yeux fermés, les narines en rase-motte, en train d'humer la croûte terrestre. J'avance centimètre par centimètre, au hasard, tâchant de ne pas trop m'éloigner du chêne. De longues minutes durant, je ne sens rien d'autre qu'une agréable et familière odeur de calcaire, l'odeur des murs ensoleillés, des belles demeures de Saint-Émilion ou de Bergerac, l'odeur de l'atelier d'un sculpteur sur pierre en plein travail, l'odeur des excavations titanesques de Carrare. Mais soudain, une vague sombre, organique, brutale, m'envahit le nez, les sinus, toute la cavité crânienne. Un fumet puissant, impérieux, humique, sensuel, qui écrase complètement la minéralité polissée du calcaire. Je tombe en arrêt. Que je déplace la tête de 30 degrés à gauche ou à droite, et le faisceau odorant disparaît de mon champ olfactif. Je ne dois pas être très loin d'un trésor. Tout excité, je creuse, en essayant de dominer ma fébrilité. La terre est poudreuse mais dure sous les doigts, lardée de petits éclats de pierre coupants qui font mal. Quel plaisir à couper le souffle lorsque la pulpe de mes doigts rencontre à mi-profondeur cette surface fraîche, grenue, vivante comme la peau d'un fruit souterrain. Les yeux toujours fermés, je dessine du bout de mes pouces, index et majeur, les contours irréguliers de cet objet inconnu qui se laisse extraire du sol sans trop de résistance. C'est une belle truffe noire de près de 100 grammes. Comme je comprends mieux les cochons à présent. Christophe Till Gessler, Lamelle.
Bien, allez, on va continuer, on n'est pas loin de la ferme. On approche. L'isolement montagnard en hiver, c'est vraiment fantastique. On a vraiment une absence de bruit. On ressent cet isolement encore rapidement. Il suffit d'être dans une zone vierge. Et là, ce silence qui s'installe, ce paysage qui est transformé, cette température aussi qui t'agresse, mais qui en même temps, comment dire, t'agresse, mais en même temps te motive, te vivifie. Voilà. J'aime l'hiver pour ça. Il y a moins d'odeur, il y a moins de bruit, mais justement, pour qu'il y ait un flocon de neige, il faut qu'il y ait un grain de poussière, une poussière. Donc toute notre atmosphère est pleine de poussière. Là-dessus va se fixer l'humidité, une goutte d'eau, la poussière va prendre l'humidité. Et en fonction des strates en altitude qu'elle va traverser, des températures, ce grain de poussière va se charger d'humidité et à partir d'un certain densité, un certain poids, il va commencer à tomber. Et moins il est tourmenté, c'est-à-dire plus il est dans une température après stabilisée avec le moins de vent possible, c'est là qu'il se développe bien, il tombe juste de son propre poids. Et s'il arrive au sol à des températures moins 2, moins 3, moins 4, il garde sa structure de flocons typiques qu'on connaît tous.
Donc là on arrive à la ferme, il y a de plus en plus de traces.
Au pied de la ferme, qui est assez massive. Hein. Enfin, là on arrive sur le versant, on n'est pas sur l'entrée principale, on va arriver sur le versant sud, vous verrez l'entrée principale. Et tout autour de cette ferme, dans ces versants un peu plus chauds, là on voit qu'il y a beaucoup de traces d'ongulés, donc chevreuils, chamois. Là on voit, donc là, sur la crotte, on peut identifier du chamois.
Ah, ça va tomber.
Il est vrai que le chevreuil aussi a une crotte qui ressemble beaucoup à celle-là, hein, dans les dimensions à peu près identiques. Et lui, il a tendance des fois à regrouper ses crottes. On appelle ça des moquettes. Donc là, on est plutôt dans du chamois. On a toute une suite de traces là, qui les unes derrière les autres, une belle enfilade. En bas, dans le pré, on voit qu'ils ont fait des bonds. Hein. À certains niveaux du pré, ils ont couru, ils ont fait des bonds. Hein. C'est impressionnant. Voilà, la boucle est bouclée. Plaisir d'aller faire un petit tour dans nos montagnes.
Ça y est, on touche au bout de cette émission spéciale Equinox. Alors...
Adieu l'hiver.
Adieu, à présent, à jamais, pour toujours. À la vie, à la mort, à la vie, à la mort, et au compte à rebours.
Et surtout, bon printemps sur la grenouille.